Winnet.
On n'a pas le choix, faut vivre avec.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Je suis très heureux de notre nouvelle sélection de chroniqueurs, des anciens, des nouveaux. Et je suis heureux aussi parce que, évidemment, nos chroniqueurs, comme c'est la mentalité de la station, ça se répercute sur tout ce qu'on fait ou à peu près en ondes, ils ont carte blanche. Ils décident de leur sujet. Puis j'aime ça parce que ça nous amène ailleurs. On parle moins de Montréal, évidemment, parce qu'on est à Québec. Mais je trouve ça intéressant quand un chroniqueur m'amène une histoire montréalaise parce qu'il ne faut jamais oublier deux choses. Un, Montréal, c'est à côté. Montréal, bien qu'on comprend que c'est pas chez nous, mais c'est à côté. C'est plus voisin que les Américains, disons, on va dire ça de même. Et deux, c'est notre poumon économique. En tout cas, peut-être que... poumon un peu affecté.
Ouais, peut-être mais... poumon de moins. Là,
poumon mais... de fumeur. Mais, mais veut, veut pas, c'est la masse critique. Oui. La moitié de la province vit dans la grande région de Montréal. Donc, c'est important de regarder ce qui se passe à Montréal parce que ce qui se passe à Montréal, bien souvent, des fois avec quelques années d'écart, mais finit par se répercuter à Québec. Et le sujet de notre chroniqueuse Mandana Javan, physicienne de formation, femme d'affaires et spécialiste de la culture islamique, m'interpelle énormément aujourd'hui. Bonjour, Madame Javan. Premièrement, comment allez-vous?
Bonjour, Justine. Bonjour, Patricia. Ça va très bien.
Merci d'accepter de nous parler, puis merci d'amener des sujets un peu out of the box, mais quand même, que je trouve pertinent pour la suite des choses des fois. Puis je vous laisse nous présenter. Il se passe des choses à Montréal, on comprend, puis je veux juste mettre les auditeurs dans le contexte, on comprend qu'on est en guerre présentement un peu partout dans le monde, mais il y en a une qui retient beaucoup l'attention chez nous, c'est évidemment... la guerre avec l'Iran et par la bande Israël et tout ce qui touche Israël, ce qui s'est passé dans la bande de Gaza et qui se poursuit au nord avec le Liban, etc. Et on sait qu'au Québec, il y a un gros mouvement anti-Israël. Puis de plus en plus, on sent que ça gagne en popularité. Les jeunes embarquent. Il y a beaucoup d'immigration qui arrive puis des gens qui sont déjà, disons, je pourrais dire, sensibles à ces causes-là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux mois au conseil municipal de Montréal?
Oui, en fait, le projet Montréal a déposé une motion pour que la ville de Montréal reconnaisse l'État juif, le pays très légitime Israël, comme un État génocidaire et apartheid, tout en sachant que en fait, une institution comme la ville de Montréal n'a pas les compétences internationales au niveau des droits internationaux. C'est pas un cours pénal international non plus. Mais ce n'est qu'une action, en fait, une tentative idéologique politique afin de s'asseoir, en fait, et d'aller prendre plus de place au niveau politique dans les institutions. Il y a deux mois, la mairesse est arrivée avec une déclaration dans laquelle elle suscitait que pour lui et pour elle, c'est très important de garder la cohésion et la paix sociale à Montréal. Et heureusement, lundi, parce que il y a eu d'autres ajouts à ce motion-là, qui a été reportée en fait pour le 24 août. Aussi demander la coupure de tout lien institutionnel avec ce pays-là.
Avec Israël.
Avec Israël. Et les demandes étaient un peu... en tout cas, ça dépasse l'ententement, vous comprenez.
Mais ce qu'on a déposé, c'était carrément une proposition de façade, c'est-à-dire que Montréal prenne position dans la guerre.
Exact. Okay. De façon officielle, sur la scène internationale, et afin de reconnaître que Israël est un État génocidaire et apartheid, c'est une copie de l'action de Mamdani à New York.
Oh, wow.
OK? Ouais. Puis ce genre d'action d'action a été, ce genre d'effort a été mené partout dans les villes européennes aussi. Je sais qu'il y a quelques villes en France qui l'ont aussi refusé, parce que de toute façon, les élus municipaux, ils n'ont pas été élus pour s'en occuper, pour émettre des jugements sur les conflits internationaux.
Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi on veut se mêler de ça, surtout en sachant qu'on n'a aucun pouvoir et aucune incidence?
Oui. Mais votre réponse est très simple, parce que l'idéologie islamiste, islamo-gauchiste, a un principe. C'est l'envahissement et arriver à leur but par l'usure. Alors, ils vont ingérer dans tous les paliers gouvernementaux, institutionnels, communautaires, syndicats que vous pouvez imaginer. Et par l'usure et par l'envahissement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des voix très, très minoritaires. Mais plus
pour l'instant.
Oui, mais ils sont juste très, très bruyantes et hyperactifs au niveau du militantisme. Alors, ils prennent beaucoup de place. C'est sûr qu'au niveau des campus universitaires, dans nos cégeps, dans nos écoles, même chez nos élites universitaires, ils prennent toute la place. Mais au niveau sociétal, ils sont quand même minoritaires. Mais ils veulent vraiment aller envahir toutes les structures institutionnelles pour qu'on perde notre temps. Parce qu'un conseil municipal de la ville de Montréal, on a beaucoup de problèmes dans la ville de Montréal. L'itinérance, les rues, vous êtes la sécurité, tout ce que... Il y en a énormément de... Puis imaginez, ça fait 2 mois que l'énergie, le temps, on a payé ces élus-là pour s'en occuper de Montréal, puis ils sont que sur ce dossier-là. Parce que, et heureusement que ça n'a pas été adopté, puis ça n'a pas été passé lundi passé, mais pour qu'on arrive à ce point-là, vous le savez combien de centaines, de dizaines de citoyens, je pense des centaines, qui se sont mobilisés, des Italiens de Montréal, des Grecs de Montréal, des Iraniens, des Juifs, même des Montréalais, des Québécois de souche, parce que on ne peut pas laisser nos institutions de se prononcer sur des choses que c'est pas leurs affaires, mais c'est pas juste ça, parce qu'après ça, c'est un sujet très polarisant.
Oui, ben, puis je veux juste, tu sais, mettre au clair, là, moi, je suis pas quelqu'un qui donne un chèque en blanc à Israël, mais je suis certainement pas quelqu'un qui donne un chèque en blanc de l'autre bord. Et là, vous me dites qu'en plus, ça va encore plus loin, on veut intégrer là-dedans. Puis là, comme vous dites, ça n'a pas passé, mais ils vont revenir à la charge. Et à un moment donné, comme vous le dites, avec l'usure, à un moment donné, ça se peut que des conseillers disent « Oh, regarde, c'est correct, ça ne change pas grand-chose, on y va. » Mais eux autres aussi demandent après, il y a toujours d'autres demandes. Donc, on force une demande, on en ajoute une autre. Et comme vous l'avez bien mentionné, à Montréal, on veut aussi rentrer le fait que la ville et les instances gouvernementales ne devraient plus faire affaire avec Israël. Moi, je m'excuse, mais si on ne fait plus affaire avec Israël, il ne faut plus faire affaire avec la Chine. Il faut être conséquent dans ce qu'on dit.
Oui.
Si un pays est responsable de millions de morts, ben on doit tous les traiter égaux, ces pays-là.
C'est ça, exactement. Puis d'ailleurs, dans les pays qui ne respectent pas le droit de l'homme, comme Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme les Émirats arabes unis qui sont rendus les plus grands partenaires de M. Carney. Alors, le port de Montréal s'est acheté par une grosse compagnie de l'Arabie saoudite, là, le propriétaire. C'est que si le port, en fait, le nouveau, là, j'ai oublié le nom. Anyway, donc, on ne peut pas avoir des doubles standards parce qu'il y a une question de droits de l'homme. Mais l'affaire, c'est que nous, ça revient à la juridiction du gouvernement fédéral. Puis même le gouvernement fédéral canadien n'a pas la compétence de se prononcer parce que les mots comme génocide ou apartheid sont des mots qui sont très, très lourds. Ils ont des conséquences. Puis même si Mme Dany l'a fait passer, on va pas suivre
Mme
les Dany, Américains.
Je ne sais pas si vous écoutez le show des fois, mais moi, Mme Dany, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est pas, je trouve pas qu'il va dans la bonne direction.
Il faut garder en tête qu'ils vont revenir. il faut s'habituer à ça ici au Québec. Ils vont revenir avec des nouvelles approches, avec d'autres contextes, dans d'autres contextes, avec d'autres. C'est que je ne sais pas comment Soraya va mettre vraiment des limites claires empêcher que l'hôtel de ville devienne une tribune de ces idéologies.
T'sais, si vous êtes capable de le dire vous-même, là, vous n'êtes pas mairesse, là, mais je veux dire, vous avez du caractère. Là. C'est un moment donné dans la vie, là, c'est comme des enfants. Là. Je veux dire, on essaie de parler. À un moment donné, quand ça fait 20 fois que l'enfant, là, il gosse, là, hey, là, c'est assez, là, on règle le problème. Bon, bien, c'est la même affaire avec des adultes. À un moment donné, on a beau écouter, puis oh, puis donc, puis là, la paix, mais on est tout le temps en train de s'obstiner. Là, c'est assez. Moi, je gère la ville de Montréal. Je peux y aller à sa place et dire, là, ça veut. Là. Gère la ville de Montréal. Ça, c'est pas sous ma gestion. Okay, vous avez le droit
mais il y a de la pression, il y a des lobbies, c'est compliqué.
Présentement, là, je ne suis pas mairesse d'Israël. Je suis mairesse de Montréal.
C'est ça, exact.
On change de sujet, Patricia. On s'entend.
Et d'ailleurs, tant qu'à être à Montréal, puis je vais sauter un peu, puis je sais pas, Madame Javens, on va avoir le temps de faire les trois sujets, mais je veux quand même, tant qu'à être dans le Montréal, on va tout de suite passer... ce qui vous est arrivé. Bon, c'est une anecdote personnelle, mais je pense que ça en dit beaucoup sur ce qui est en train de se passer à Montréal. La police en a plein les bottines avec les histoires de racisme systémique, etc.
Exact.
Et là, on sait qu'il y a des enquêtes, puis là, le chef de la guerre est venu répondre aux gens, puis là, la police est débordée. Mais est-ce que la police est débordée à ce point où on n'est plus capable de déplacer... une patrouille de police pour aller vérifier quand quelqu'un appelle le 911? C'est ce que vous semblez nous raconter, là.
Oui. En fait, je vais préciser quelque chose. Ça ne s'est pas passé sur l'île de Montréal. Ce n'est pas SPVM, c'est SPAL. C'est à Longueuil.
Ah, la police à Longueuil.
Non, c'est à Longueuil, sur le boulevard Beauharnois, l'école Gentilly. On est à côté de l'école. On a un immense parc, deux terrains de baseball, une... parc pour les bébés, qui est malheureusement pas protégé comme les parcs à Montréal avec des grillages en métallique, et qui est collé sur la rue sur laquelle la vitesse maximale, c'est 30 km/h. Puis imaginez, il y a un stationnement en gravier, sable, à côté de parc, où il y a aussi un plaza avec crèmerie, tout ça, où on a des caméras de surveillance, justement. Et le week-end, on était témoin d'un événement vraiment très inquiétant. Il y avait deux jeunes dans une Alfa Romeo 2026 VUS, une auto de 80 000 $ qui sont rentrés en vitesse dans le stationnement en gravier, qui ont commencé à drifter à très haute vitesse.
Comme on dit ici, pendant... Madame Javens, ici, on dit faire des bangs.
Exact, OK? Puis pendant une bonne 2-3 minutes, à tel point que le lendemain, parce qu'il a beaucoup, beaucoup plu, même le lendemain qu'on passait dans le stationnement, on voyait la baigne, justement, la forme de baigne, même la pluie ne l'avait pas effacée. Alors, il y avait un nuage de poussière très impressionnant. Il y avait des enfants, des adolescents qui jouaient au soccer juste à côté, qui ont pris des vidéos. Alors, on a appelé 911, j'ai tous les documents, puis je le sais que c'est enregistré, donc je prends la responsabilité. On a appelé 911, la première fois, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte, j'ai rien dit, j'ai dit non. Mais deuxième fois, 5 minutes après, j'ai appelé, j'ai dit, je vois qu'il y a des caméras de surveillance, donc on va pouvoir voir la plaque d'immatriculation de véhicule, mais... Deux heures après, il y a une madame qui m'a appelée avec un numéro masqué pour me dire que « Madame, est-ce que vous êtes capable tout de suite de identifier les visages? » Mais c'est impossible parce que c'était dans un nuage de poussière, vous comprenez? Mais l'affaire, c'est que leur conduite dangereuse, à part de faire des bains, de rester dans le stationnement, après, ils l'ont roulé peut-être à 150 km/h sur la rue qui est collée à ce parc-là, qui est la limite de vitesse, c'est 30. Puis ça, c'est carrément criminel.
C'est d'ailleurs, maintenant, c'est des super amendes là, avec conduite dangereuse, puis tu peux perdre quasiment tous tes points.
Mais
là,
l'affaire, c'est que moi, parce que ma maison, c'est un peu loin de ce parc-là. Cette année, c'est le premier été que j'allais dans ce parc-là parce que mon fils a des amis à l'école. Et je me suis rendu compte qu'il y a... C'est pas la première fois qu'il arrive. Les jeunes dans ce coin-là, les jeunes adolescents, ils roulent des fois très, très vite. Puis il y a des enfants de 2 ans, des petits enfants sur des trottinettes qui se promènent à côté.
Là. Mais là, si les policiers sont au courant de toute cette mise en contexte-là, ils sont arrivés rapidement, là?
Non, non, non. J'ai deux appels à 911. Ils ne se sont pas, en fait, pointés pour prendre. Puis ça, c'est SPAL. Ce n'est pas SPVM. Donc, on n'a pas d'excuses qui n'ont pas le temps. Puis après ça, puisque j'ai eu aussi des vidéos des enfants qui étaient sur place, qui avaient tout filmé, et puisque je suis allée parler au concierge de Plaza qui m'a donné son numéro pour qu'il collabore avec les policiers, je me suis déplacée à SPAL. Puis d'ailleurs, je salue agente Biron, mais je ne veux pas donner sa matricule, ouais. Pour présenter que je veux déposer une plainte parce qu'au moins, il faut que la police rencontre le propriétaire.
Mais vous savez que ça va tomber en bas du bureau, ça, là.
Oui, mais l'affaire, c'est que ce n'est pas la première fois, ça ne va pas être la dernière fois. Et on est certain dans ce coin qu'on va finir par une tragédie. Pourquoi? Parce qu'à cause de la crèmerie en face, c'est une classe de flânage des jeunes adolescents, un peu, vous comprenez, puis qu'ils chantent, puis ils consomment, puis ils crient jusqu'à 1h du mat. Ça ne va pas arrêter, là. Mmh. Vous comprenez? Donc, malheureusement, on va avoir une tragédie à un moment donné si on ne l'encadre pas, cette situation-là.
Mais oui.
Je suis allée, puis Mme Biron a catégoriquement refusé de me laisser de porter une plainte en me donnant toutes les informations que j'avais. J'ai l'or, j'ai tout, mais
je vous savez,
ça...
Mme Javanne, que c'est comme ça un peu partout en Amérique du Nord. Entre autres, j'ai l'exemple de San Francisco où, à un moment donné, la police a même arrêté de se déplacer pour des vols à l'étalage où on s'est dit, écoutez, si c'est moins de 200 $ là, laissez-les partir, puis les assurances. Puis,
est-ce qu'on a un peu abandonné? C'est la vie des enfants. C'est un peu différent de vol des étalages. Puis c'est pas la première fois, puis ça va se répéter. Ça fait depuis quelques années que c'est comme ça. Et l'affaire, c'est que moi, je tenais vraiment à parler de cette histoire-là parce que malheureusement, le jour que la tragédie va arriver, je vais rendre M. Patrick, j'ai oublié son nom de famille, là, à Espal, qui est collègue de Fadi Daguerre à Longueuil, je vais le rendre responsable pour qu'il réponde à ça. Parce qu'on ne peut pas, la conduite dangereuse, puis avec toutes les caméras qui sont là, puis qui sont disponibles, moi, je demande pas d'arrêter le conducteur, c'est impossible. Mais on peut, parce que c'est une voiture de 80 000 $. C'est pas un jeune de 16 ans qui peut l'avoir.
Non.
Il y a des adultes derrière ça. Je voulais juste demander que le propriétaire soit contacté pour dire qu'il y a telle chose est arrivée, soyez au courant, puis la prochaine fois, c'est vous qui va avoir une grosse amende.
Et c'est ça le problème, c'est que souvent, on a l'impression que personne est responsable de rien. Il n'y a pas d'imputabilité, il n'y a pas de...
Ça me donne l'impression que je vis maintenant en Iran. Ça veut dire que l'État, il ne fait rien.
Ouais.
En Iran, on s'assure notre propre sécurité, on est notre propre médecin, on est notre propre enseignant, mais ça se peut pas. Alors pourquoi j'ai immigré au Canada? Parce que ici, justement, l'État existe.
Ah.
On paye des impôts. Oui. Ils sont payés par nos impôts.
On en paye beaucoup, oui, mais à un moment donné, vous connaissez l'expression « trop d'État tue l'État ». Donc, c'est ce qui arrive. À un moment donné, on a tellement de couches de responsables qu'il n'y a plus personne qui est responsable et on abandonne la rigueur, on abandonne la sécurité.
Faites bien de nous le redire parce que on se fait avec la médiocrité. Je l'ai dit en introduction, là. On s'habitue à la médiocrité. Puis je veux juste dire ce point-là parce que vous semblez étonné que la police ne réagit pas, mais maintenant, là, les entrepreneurs pour des petits vols à l'étalage, là, faut que tu t'arranges de par toi-même en mettant la photo du voleur.
Et on le voit de plus en plus. Puis je sais que tantôt, vous avez dit que ça n'a pas de lien avec la vie, mais ça devient secondaire comme discussion. On n'a pas le temps, on est occupé ailleurs. Oui. Et je vois ça de plus en plus. Oui. Dans tous les dépanneurs, maintenant, il y a des photos affichées, voleur, information.
Oh my God. Ouais.
Donc, merci, Mme Jarrard.
Juste une dernière point sur la médiocratie.
Oui.
Parce que cette Mme Biron, agence Biron, Moi, j'attendais à peu près peut-être 45 minutes. Moi-même, j'ai été victime de violence conjugale. Donc, la dame était latino, était avec un traductrice. Moi, toutes mes sympathies pour cette dame-là. Mais cette agente-là, elle se trompe le rôle de travailleuse sociale avec le rôle d'une agente de police.
Mais on les a tout mêlés. On leur a dit que les policiers ne pouvaient plus être des policiers, que maintenant, il fallait qu'ils accompagnent les délinquants, il fallait qu'ils jouent au basketball avec eux.
Elle a passé 45 minutes à jouer le rôle de thérapeute. Puis de. Mais c'est pas ça, sa job. Puis quand j'arrive pour déposer un plan qui peut être un jour... qui peut être finir si on ne sensibilise pas les jeunes de ce quartier à une tragédie, je n'ai pas de place.
Madame Javanne, merci. On s'en reparle dans deux semaines.
Merci beaucoup.
Au plaisir. Bye.
Bye.
13h26. Puis je sais qu'il y en a qui me disent « Oui, mais là, c'est une histoire de Montréal. » Non, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que c'est une histoire de Montréal, mais l'affaire, c'est que c'est généralisé. Ouais. Elle a raison.
Ouais.
C'est fou à quel point maintenant... Regarde, les gens nous écrivent, là. Il y a des gens qui viennent nous lancer des roches quand on joue au pickleball, des petits délinquants qui débarquent. On appelle la police, ils viennent une fois sur quatre.
Ouais.
Puis ils arrivent deux heures plus tard.
Oui, mais c'est parce que la personne qui se fait agresser sexuellement, tu veux pas qu'elle soit sauvée, mais elle?
Je sais pas si elle est plus. C'est ça l'affaire.
Oui, mais c'est comme... C'est à coup de petits arguments exagérés comme ça que
on se fait fermer à boîte.
Mais tu sais, c'est pas normal, dans le fond, que...
Quelqu'un dit, en passant à Québec, c'est ça, là, t'appelles la police, ça arrive deux, trois heures après. Là. À moins vraiment qu'il y ait une urgence là, de vie, de mort. Là. Tu sais, tu dis, il y a un gars dans ma cour, là, oublie ça, là, il débarque pas dans cinq minutes. Là.
Rappelle-toi des dénonciations dans le quartier Saint-Roch. On disait, là, on appelle la police, mais la police est tellement habituée de se faire appeler que là, ils savent bien qu'ils ne sont pas obligés de réagir tout de suite parce que c'est encore des histoires d'itinérants.
Mmh.
Oui, mais.
Oui, mais l'itinérant, il peut être dangereux. Là.
Saint-Roch, où il y a des gens, dans un building, se paient des gardes de sécurité.
Ça a touché un bon point aussi, là. Les policiers, êtes-vous des policiers, vous êtes des travailleurs sociaux?
Bien, en fait, la faute n'est pas aux policiers. Ça va à ce qu'on fait des policiers, puis ça, il y a des boss en haut.
Mais ma question, c'est pas pour vous personnellement, mais je vous pose la question parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous sentez-vous plus policier ou plus travailleur social?
Ah, il y a les deux.
Ouais, mais ta job, c'est police.
Oui, je sais, mais...
Travailleur social, il arrive après lui.
C'est pas de même qu'on te forme.
Oui, c'est ça. Parce qu'il faut faire attention, puis là, faut pas brusquer les gens. Puis là, d'un coup, t'as l'air raciste. Puis d'un coup, t'es qui? Puis là, fait qu'on ira pas.
Le bien pareil.
On va arriver plus tard. 13-28.
Ouellette. En direct.
Aucune idée, c'est qui?
Radio X.